Ne crains rien, je t'aime. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, peut-être aux plus anciens d'entre vous. En tout cas, c'est le titre d'un vieux cantique, dont je vous livre juste quelques lignes. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Et dans le refrain, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Seul. C'est malheureusement le sentiment que l'on peut avoir les uns et les autres dans bien des circonstances, où l'on a l'impression que rien, ni personne, ne peut nous aider, comme un sentiment d'abandon. Alors je vous avoue que vous m'avez encouragé ce matin, pendant ce culte, par le contenu des chants que vous avez choisis, le contenu des prières que vous avez faites monter au Seigneur et le contenu des lectures que vous avez exprimées, au point que, sans vouloir le citer, que Gilbert, dans sa prière, a cité le verset de base qui va être notre partage ce matin et que je vous invite à lire maintenant, donc Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, donc ça c'est pour nos visiteurs qui n'auraient pas leur Bible, pour les autres, donc dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41 et les versets 8 à 10. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors c'est un texte, bien sûr, de l'Ancien Testament, qui est à propos d'Israël. Pouvons-nous nous approprier cette parole ce matin, toi que j'ai choisi, race d'Abraham? La version Darby parle de semence d'Abraham, et les versions Sommer et Second 21 parlent de descendance d'Abraham. Paul dira aux chrétiens de Galates, chapitre 4 et au verset 28, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Mais à qui s'adresse Paul? Alors, pour l'anecdote, il semble que les Galates sont à l'origine des Celtes migrants qui viennent de Gaule, c'est-à-dire de la France actuelle. Hein? On dirait que c'est à nous qu'il parle, du coup, hein? Quand il s'adresse à ces migrants venus de France. Mais bien sûr, nous ne retiendrons pas cette raison-là pour être mis au rang des enfants de la promesse. Car nous le sommes uniquement par l'adoption dont nous sommes les bénéficiaires de la part de Dieu en retour de notre foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons, en tant que chrétiens, nous approprier ce passage d'Ésaïe et rapprocher ces relations qui sont décrites dans ce texte avec les relations qui sont celles de Dieu le Père envers tous ceux et celles qui se réclame de son nom. Dans le Nouveau Testament, très nombreuses sont les occasions où Jésus parle de sa relation avec son Père. J'en citerai une seule dans Matthieu. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. L'objectif du plan de Dieu pour nous, c'est de nous révéler Dieu comme Père par Jésus-Christ. C'est de faire de nous ses fils. C'est de nous permettre de passer du statut de créature au statut de fils en relation avec son Père. À la croix, au moment où Jésus s'adresse à Dieu se sentant abandonné de lui, c'est en quelque sorte comme si Jésus laissait son statut de fils unique pour nous donner avec lui notre place de fils et de fille. Et pourtant, malgré cette place privilégiée, il arrive aux chrétiens d'avoir un sentiment d'abandon. Bien souvent, nous avons l'impression d'être rejetés. C'est le cas dans la vie partagée avec les collègues de travail, avec les amis, et parfois même au sein de notre famille. Le rejet, ainsi que le sentiment de rejet, sont des circonstances tant de fois vécues. Pourtant, pour l'enfant de Dieu, ce sentiment existe, entre autres, au moment où, dans notre vie, où notre vie n'est pas ce que Dieu voudrait qu'elle soit. Quand nos erreurs, nos fautes, nos pensées mauvaises, nos projets sans Dieu restent présents en notre esprit, alors s'installe dans le cœur de l'enfant de Dieu le sentiment de solitude, comme si quelque chose s'était distendu entre le Père et nous. Et nous avons tendance à penser que Dieu nous a abandonnés, mis de côté. Alors la question est-ce que Dieu rejette son enfant? Est-ce que Dieu rejette celui qu'il a choisi? Ou bien alors, est-ce que par mes conditions de vie, je mérite d'être abandonné? Dans notre passage d'Ésaïe, nous pouvons discerner tous les soins de Dieu destinés à ses enfants. Alors, juste un mot sur les soins. L'une des quatre principales significations que nous donne le dictionnaire sur ce terme, je cite, est « soin, acte par lesquels on soigne, attention, prévenance, sollicitude ». Au premier abord, on a le sentiment de bienveillance et de bienfait. Mais en y regardant de plus près, on réalise que les actes par lesquels on soigne ne sont pas toujours des actes non douloureux. La piqûre et l'infiltration sont des actes de soin. Est-ce que vous les appréciez? Les effets de certains médicaments sont plutôt, pour le moins, inconfortables. Le goût de certains médicaments est désagréable. Et autant que cela dépend de notre volonté, on tâche d'éviter de passer par de tels soins. Pour en revenir à notre sentiment d'abandon que j'évoquais, est-ce que nous pouvons dire si notre Père a des soins pour nous, tels que décrits dans notre texte de base, pourquoi, parfois, ce sentiment désagréable et douloureux de l'abandon. Alors, deux exemples, si vous voulez bien, de ce qui se passe dans notre corps en tant que système préétabli. Alors, certainement que les médecins et infirmières, psychologues et thérapeutes de notre église, la rue Sonra, expliquerait mieux que moi-même le principe de la douleur. Selon les spécialistes, la douleur est un phénomène complexe. Et entre autres, la douleur est en quelque sorte un signal d'alerte qui indique à notre cerveau que quelque chose d'inhabituel se passe à l'intérieur de notre corps. Un signal d'alerte qui indique à notre cerveau que quelque chose d'inhabituel se passe et qu'il faut y remédier. Un autre élément, la fièvre. Dans le journal de Figaro en 2015 et dans la rubrique Science et environnement, il est noté que la commande de la fièvre est située dans le cerveau. Que la fièvre est un bienfait de la nature. Alors bon, j'ouvre une parenthèse, hein. L'enfant de Dieu traduit parfaitement ce bienfait de la nature et c'est de qui vient ce bienfait. Alors je reviens à la citation, en refermant la parenthèse. Que la fièvre est un bienfait de la nature, que la fièvre tend à aider le corps à se protéger des infections bactériennes et de nombreuses autres maladies. Une équipe de chercheurs américains de Boston a réussi à identifier la zone cérébrale qui constitue la commande de la fièvre. C'est une zone clé, pas plus grande que la pointe d'une épingle, dont les neurones sont spécialement équipés pour déclencher ou non la montée en température de notre corps. Quand un organisme doit se battre contre une infection, son système immunologique, c'est-à-dire les sentinelles de la santé, sonne le branle-bas de combat. Envoyez la fièvre, ennemi en vue. Et c'est la lutte contre l'infection qui s'engage par le moyen des globules qui deviennent de plus en plus actifs. Alors, si vous me permettez, j'oserais faire la comparaison entre cette organisation divine et bienfaisante de notre corps avec l'organisation de la relation du Père avec ses fils et ses filles. Le sentiment d'abandon, une douleur, comme un signal d'alerte dans notre cœur qu'il se passe quelque chose d'inhabituel dans notre vie spirituelle et qu'il faut y remédier. Le sentiment d'abandon, une fièvre spirituelle, comme le déclenchement d'une lutte contre l'infection. Mais me direz-vous, François, tu es en train de nous dire que cette douleur, ce sentiment d'abandon, c'est Dieu qui en est à l'origine? Tout comme les soins dont nous venons de parler, les soins de Dieu, efficaces et salutaires, ne sont pas toujours confortables à vivre. Ainsi, par ce sentiment d'abandon, Dieu veut quelque part peut-être nous interpeller et nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut faire quelque chose et que nous devons combattre ce qui ne va pas. Une autre courte lecture dans Ésaïe, toujours le même livre, mais cette fois-ci au chapitre 54, le verset 7 et 8, que je cite « Pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une affection que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché de toi, mais c'est avec un amour éternel que j'aurai compassion de toi. Un court moment, je t'avais abandonné. Je m'étais un instant caché de toi. Le contexte de ce passage, c'est Israël en déportation, conséquence de ses inconséquences, et qui se trouve dans cette situation comme abandonné de l'Éternel, délaissé, ne pouvant ni voir ni reconnaître Dieu dans ce qu'il vit. Et l'application que nous y trouvons, c'est que de la même manière que Dieu trouve une compassion pour Israël, peuple un instant délaissé, parce que infidèle, c'est ce que nous dit Jérémie, de la même manière, notre Dieu ne nous délaissera pas éternellement, malgré nos égarements, nos erreurs, nos fautes, et quelque part peut-être malgré nos trahisons. Mais c'est avec une grande affection que je t'accueillerai. Mais c'est avec un amour éternel que j'aurai compassion de toi. Dieu ne cache pas éternellement sa face à ses enfants. Il ne les traite pas, il les traite avec affection, il les traite avec compassion. Dieu ne nous traite pas selon nos faiblesses, nos faillites ou notre manque de foi. Psaume 103. Il, c'est-à-dire Dieu, ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dieu envoie des alertes, comme quoi il est temps d'agir, de venir à son trône de grâce, sans crainte, comme des fils, comme des filles. Pour revenir à notre texte d'introduction, ça va venir. Ce qui est anormal est normal. Voilà. Donc dans ce texte de base qui était affiché à l'écran et que nous avons lu, nous avons là 8 engagements de Dieu. Le programme du Père pour ses fils et filles, pour ses enfants. Alors le premier engagement de Dieu dans ce texte, c'est « Je te choisis ». C'est-à-dire que Dieu a un plan pour moi. Premièrement, un plan pour mon salut, pour que je puisse le découvrir. C'est-à-dire que la circonstance de ma rencontre avec lui est inscrite dans son plan pour ma vie. Il a un plan pour ma vie de famille, c'est-à-dire que rien des circonstances que je vis dans ma famille n'échappe à Dieu et à son secours. Un plan pour ma vie personnelle, un plan pour ma vie de service dans l'Église, il a même un plan pour mes erreurs. Dieu n'est pas surpris par ma vie, attristé, certes, parfois, mais pas surpris. Et il s'évertue à ce que son plan pour moi s'accomplisse. Le deuxième engagement, c'est « Je ne te rejette pas ». C'est le privilège de l'enfant de Dieu. Tant d'enfants délaissés, abandonnés, mais notre Père est le Père qui ne rejette pas son enfant. Même si j'ai pu aller loin, si loin même de l'avoir peut-être un instant renié, Dieu ne se lasse pas et met tout en œuvre pour préparer mon retour vers lui, pour retrouver cette réalité d'appartenance à Dieu. Le défaut d'appartenance, quel sentiment douloureux. L'abandon, le dictionnaire indique pour ce terme d'abandon tout ce que renferme cette expression, et notamment le fait d'être abandonné. Et là, il dit que c'est d'être délaissé au point que personne ne s'occupe de nous, avoir perdu le sentiment d'appartenance. Pour la loi française, par exemple, l'acte d'abandonner la résidence principale pour se soustraire à sa responsabilité de parent, c'est un délit. Alors pensez-vous qu'après nous avoir choisis, qu'après nous avoir fait entrer dans sa famille, fait de nous des fils et des filles, Dieu le Père, Dieu le Saint, le Juste, commettrait le délit de se soustraire à sa responsabilité de père? Après son reniement, l'apôtre Pierre a certainement expérimenté la solitude profonde qui caractérise le sentiment d'abandon. Pierre a douté à ce moment-là, de lui-même bien sûr, mais sans doute également de la capacité du Seigneur à ne pas le rejeter. Le chrétien authentique peut-il douter? En a-t-il le droit? Le sentiment d'abandon ne fait pas de nous de faux chrétiens ou des chrétiens de seconde zone. Le sentiment d'abandon fait de nous des chrétiens qui ont besoin d'être restaurés ou réhabilités pour pouvoir aller plus loin avec Dieu. Le Seigneur a donné à Pierre les occasions de réaliser l'accueil de Dieu. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Quelle question douloureuse pour Pierre. M'aimes-tu plus que cela? Dans l'évangile de Matthieu, Pierre, répondant au Seigneur, a pu dire, même si tu étais pour eux tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. C'est un peu comme s'il avait dit, eux sans doute sont capables de te renier, mais pas moi. Et lorsque le coq a chanté, quel sentiment profond Pierre a réalisé, que celui de la déception, de n'être plus perçu comme un homme en qui on peut avoir confiance, mais comme un traître, seulement digne d'être abandonné. Quelle faute majeure Pierre a-t-il commis? La plus grande faute de Pierre avait été pas seulement le fait d'avoir renié le Seigneur, mais de croire qu'il serait toujours le plus fort, le plus fidèle, l'inébranlable. D'où l'exhortation de Paul aux Corinthiens et à nous-mêmes, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Pierre a compris la leçon. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais ce dont je suis capable. Et le Seigneur, de l'accueillir, de le relever et d'employer Pierre tout au long de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Le troisième engagement de Dieu pour nous, c'est « ne crains rien ». C'est le don de sa paix promise en toutes circonstances. La capacité que Dieu me donne de conserver la paix dans les circonstances adverses. Job, par exemple, dans sa situation extrême, a déclaré « Mon Dieu, non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre. Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre. » Le quatrième engagement de notre Dieu pour nous, c'est « Je suis avec toi ». C'est une présence. Et cette présence, Dieu veut nous l'assurer de manière permanente par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ, Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, nous dira le Seigneur dans l'évangile de Matthieu. Le cinquième engagement, ne promène pas des regards inquiets. C'est un engagement de protection. Si légitime soit-elle, l'inquiétude peut nous faire oublier l'intérêt majeur que Dieu a pour moi. Peut me faire oublier la protection infaillible qui est sur moi. Le psalmiste dira, « Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais « je suis trop malheureux ». Le sixième engagement, c'est « je te fortifie ». C'est Dieu qui procure la force. Une force insoupçonnée qui est mise à notre disposition. Comme Pierre, Élie, après une vie de service, de grande victoire remportée avec et pour l'Éternel, s'est trouvé soudain plongé dans un découragement tel qu'il a désiré mourir, comme vous le savez. Élie a oublié le regard de Dieu sur lui au moment où il a fixé ses propres regards sur les difficultés réelles qui étaient les siennes. Élie s'est laissé submerger par les difficultés. Et le sentiment de solitude et d'abandon ont pris le pas sur lui. Il n'est pas nécessaire d'avoir une nature pessimiste pour connaître dans de réelles difficultés profondes le sentiment de solitude et d'abandon. Nous aussi, nous pouvons traverser de telles situations. Peut-être sommes-nous tentés de penser que Dieu ne peut plus se servir de nous, qu'il nous met de côté, qu'il nous abandonne. Mais notre Père Céleste ne met pas de côté ses serviteurs qui faillissent ou qui faiblissent. Dans le cas d'Élie, Dieu a envoyé à son ange pour donner à Élie exactement ce dont il avait besoin au moment où il en avait besoin. Ce même Dieu miséricordieux veut nous fortifier, nous encourager. Et ce sont les septième et huitième engagements de Dieu qui est devenu notre Père. Je viens à ton secours. C'est la providence de Dieu dans nos vies, c'est-à-dire l'action de protection et de secours de Dieu pour ses enfants. Et enfin, le huitième engagement, je te soutiens de ma droite triomphante. Une promesse qui, comme toutes les siennes, sera tenue. Alors pour conclure, pourquoi Dieu ne rejette-t-il pas ses enfants en difficulté? Parce que la compassion de Dieu n'a pas de fin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Pourquoi Dieu ne rejette-t-il pas son enfant en difficulté? Parce que notre salut n'est pas basé sur le fait que notre vie est faite que de réussites ou de bonnes œuvres accomplies. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Et enfin, pourquoi Dieu ne rejette-t-il pas ses enfants en difficulté? Parce que Jésus comprend mes conditions de vie et mes faiblesses. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Peut-être que nous pourrions avoir cette prière pour conclure. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir choisi. Et de me rappeler que tu as un plan pour ma vie. Donne-moi d'y entrer avec confiance, avec ta paix aussi, et avec joie, et que nous puissions dire avec le psalmiste, oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais, je suis malheureux. Amen.